Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc les deux dernières semaines, nous avons parlé de l'assurance et les titres étaient, vous en rappelez, la première fois j'avais nommé ça, vous pouvez avoir de l'assurance. La deuxième fois c'était toujours plus d'assurance. Et donc on a vu la différence entre souhaiter, espérer et avoir de l'assurance. Et on a vu que les premiers chrétiens, ils avaient de l'assurance. Avec un verset de base de Actes 4, 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Donc, nous disons que, en tant que croyants, nous avons besoin d'avoir de l'assurance. Il faut vraiment s'entretenir dans cette pensée. On a besoin d'avoir de l'assurance et on a aussi le droit d'avoir de l'assurance. Hein, parce que ça aussi, ça peut être mal perçu. Des gens disent, pour qui vous prenez-vous? Vous êtes tellement sûr de vous, mais d'autres peuvent avoir d'autres croyances. Donc, d'être sûr de ce qu'on croit. Mais il y a aussi une illustration très intéressante que j'ai lue concernant une église qui se situait à Sardes, dans donc l'ancienne Asie mineure, c'est un peu une région de Turquie actuellement. Et dans l'Apocalypse, donc le livre de la révélation que l'apôtre Jean a eu, au chapitre 3, il est dit la chose suivante. « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Donc il y a plusieurs choses très intéressantes dans cette exhortation à cette église de Sardes. Des choses qui ressemblent des fois au spirituel sont aussi observées dans le naturel. Cette ville de Sardes était caractérisée par des gens qui étaient très sûrs d'eux. Ils avaient construit une citadelle qui est attribuée au roi Mélès, qui aurait placé là son palais, son trésor, fortement fortifié. De l'autre côté du Pactocle se développait la ville basse. Donc il y avait une partie, c'était la citadelle, et une autre partie, la ville basse. Elle était bien moins protégée. Et elle a subi des assauts des Cimériens en 652 avant Jésus-Christ, puis des Perses. Après la chute de l'Empire lydien au VIe siècle avant notre ère, la citadelle de Sardes résiste encore. Donc chaque fois il y a eu des envahisseurs, il y a eu des attaques contre cette citadelle et elle a toujours résisté. Même si les ennemis pouvaient venir très près, ils pouvaient prendre le reste du pays, mais cette citadelle a résisté. Et elle n'a été prise que par Cyrus le Grand et par surprise en 546 avant Jésus-Christ. Pourquoi je dis ce petit paragraphe d'histoire? Parce que c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé. Sardes est alors devenue la capitale de la satrapie de Lydie. Donc l'empire des Perses était dirigé par un certain nombre de hauts fonctionnaires, gouverneurs, qu'on appelait les satrapes, et donc c'était divisé en un certain nombre de satrapies, et donc Sardes est devenue une capitale, une partie de cet empire perse. Et Rick Renner, cet enseignant et qui connaît bien l'Antiquité et les choses bibliques, il explique que les habitants de Sardes se croyaient très sûrs d'eux. Mais au cours des années, ils étaient tellement sûrs de leur citadelle et de leur fortification et de tous les échecs des ennemis qu'ils se sont dit « jamais personne n'arrivera à nous atteindre dans cette citadelle ». Mais à force d'être sûrs d'eux et les décennies qui passaient, il s'est créé des failles dans les fondations, dans les rochers qui soutenaient la citadelle. Des failles, non pas que la citadelle se soit écroulée, mais ils ne se sont tout simplement pas aperçus qu'au fur et à mesure, la terre sous la citadelle était en train d'être érodée, qu'il y avait des failles qui se créaient, et ils se sont créés des failles suffisamment grandes pour qu'un homme puisse se faufiler. Et donc, au lieu que l'ennemi vienne là où on l'attendait, bien à l'abri derrière les murailles et en haut sur notre citadelle, sur le rocher, il est venu en réussissant à se glisser, se faufiler par des failles qui se sont créées dans les rochers. Et donc, une poignée d'hommes a réussi à se glisser à l'intérieur de la forteresse et ils ont été complètement encerclés. L'ennemi était présent partout quand ils se sont réveillés. Et c'était donc la chute de cette cité de Sardes. Et donc faire la comparaison avec cette situation spirituelle où il y a un message du Seigneur Jésus à cette église et à l'ange. L'ange, ça veut dire celui qui est envoyé, celui qui est le responsable de l'église. Et il dit, voilà, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. On pourrait dire de la même façon, la cité, elle passait pour être forte, mais elle était faible en réalité. Et donc nous aussi, on peut passer pour être vivant dans le sens que, voilà, je suis un chrétien, je suis fort en Christ, j'ai tant et tant d'années de vie chrétienne derrière moi, de conversion, de toutes les études bibliques que j'ai faites, de toutes les réunions auxquelles j'ai assisté, j'étais à des tas de séminaires, mais si à un moment donné, vous ne vous rendez pas compte que des failles se sont créés dans vos racines et dans vos bases, un jour, l'ennemi peut vous avoir par surprise. Et donc là, le message de l'Esprit de Dieu, c'est « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Donc, sois vigilant. Vigilant, ça veut dire attentif, réveille-toi, examine, regarde ce qui se passe et affermis le reste. Souvent on a dit affermis le reste, ça veut dire que peut-être l'église c'est plus qu'une petite poignée, alors ceux qui sont encore vivants, il faut les fortifier dans la foi. Mais tu peux dire aussi affermis le reste, ce qui reste de ta vie spirituelle. On n'a pas une vie spirituelle linéaire, on est tous toujours au même point. La plupart du temps, il y a un peu des dents de scie. Il y a des moments où on est au top, des moments où on est un peu en bas. On sait que c'est pas la volonté parfaite de Dieu, parce qu'il dit « devriez toujours être en haut et jamais en bas ». Mais il nous arrive, enfin je pense que je suis pas le seul, que des fois on est aussi en bas. Et donc, ce qui reste quand on est en bas, quand il y a des choses de notre vie spirituelle qui ont un peu pris des coups sur les attaques et tout ça, eh bien il faut l'affermir. Ce qui est sur le point de mourir, il faut l'affermir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu, n'a pas atteint cette perfection, perfection dans le sens aussi de maturité. Ça veut dire que un jour vous êtes tout feu tout flamme pour Dieu, le lendemain vous doutez même de certaines choses qui pourtant sont des promesses de Dieu. Alors ça c'est pas une œuvre parfaite devant notre Dieu. On devrait dire même si ça va pas, même si je me sens pas bien, même si j'ai mal ici et là, même s'il y a des trucs qui vont de travers, il y a des choses qui ne changent pas dans ma vie. Et donc ça c'est une façon d'affermir. Alors rappelle-toi, vous voyez, des fois des mauvaises choses, on n'a pas de problème pour se les rappeler parce que le diable nous aide, il nous fait tout le temps son cinéma avec ce qui va pas, vos défauts, vos échecs, elle m'a dit ça, elle m'a fait ceci, etc. Donc toutes les choses négatives, c'est très facile de se les rappeler parce qu'il est tout le temps là en train de vouloir envoyer des flèches enflammées, nous dit la Bible. Mais il nous est dit ici de se rappeler de quelque chose de précis. Comment tu as accepté et entendu la parole? Rappelle-toi comment ça se passe quand tu reçois et acceptes la parole de Dieu. Entendu et accepté. Cette parole qui est une parole vivante. Je te dis pas comment tu as accumulé des tas de connaissances bibliques, mais les moments où Dieu te parle. C'est ça qui te fortifie, c'est ça qui te permet d'être debout. Et donc, rappelle-toi de ça, garde cette parole et repens-toi. Repens-toi, ça veut dire change de mentalité. Quand des mauvaises pensées viennent, pensées de défaite et d'échec, change de mentalité. Donc voilà pour notre introduction sur les assurances. Avoir de l'assurance, c'est se rappeler comment on a entendu la parole, comment on l'a reçue. Ça fait donc 2 semaines que nous parlons de l'assurance, que nous disons les premiers chrétiens avaient de l'assurance. Et j'aimerais avec vous faire juste un rappel, puisqu'il est dit « rappelle-toi ». Nous avons vu 5 domaines précis dans lesquels nous pouvons avoir cette confiance en Dieu. 5 domaines précis dans lesquels nous pouvons avoir une ferme assurance. Les 3 premiers points, c'était dans le message « vous pouvez avoir de l'assurance ». On a vu l'assurance du salut. 1 Jean 5, 11. Même si vous l'avez entendu maintenant 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, ça ne fait rien, puisque c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment graver dans notre cœur. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Déjà là, c'est comme un coup de canon, c'est une révélation extraordinaire. Dieu nous a donné la vie éternelle. Beaucoup de gens se posent des questions. Où c'est? Où est la vérité? Quelle est la bonne religion? Est-ce qu'on peut le savoir? Là, on frappe fort dès le début. On dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Ça a beaucoup d'assurance en disant ça. Cette vie, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc vous pouvez le savoir. Deuxième point, l'assurance de l'exaucement. On a parlé de la prière, de l'évolution des prières, de prier le Notre Père, et puis où Jésus lui-même dit dans Jean 16, d'abord verset 23, « Maintenant, je ne vais plus prier le Père pour vous, mais verset 24, vous-même, vous allez pouvoir prier le Père en mon nom. » Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Troisième assurance, c'était celle du pardon. Personne ne peut dire qu'il est parfait, qu'il n'a jamais fait de faute ou d'erreur. Mais lorsqu'on les reconnaît, alors on peut trouver le pardon en s'adressant à Dieu. Et ça, chaque fois que nous voulons avoir de l'assurance, nous devons voir que quelque part dans la Bible, Dieu l'a dit. Quelque part c'est écrit. Quelque part il s'est engagé. 1 Jean 1,9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc ça, c'était les 3 premiers points. Ensuite, les points 4 et 5 dans le message, toujours plus d'assurance. Le 4e, c'était l'assurance de la victoire. 1 Corinthiens 10,13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Les mots « tentation » et « épreuve » sont interchangeables. Donc, quelles sont tes épreuves que tu dois affronter? Quelles sont tes tentations auxquelles tu fais face? Peur, maladie, défaut, regard des autres, qu'en pensera-t-on? Rejet? Personne ne peut dire qu'il n'a pas ses épreuves. Mais la tentation, c'est de dire « c'est trop fort pour moi. Moi, je ne peux rien y faire. Je ne peux pas y résister. » Que ce soit la tentation ou que ce soit l'épreuve. « Oh non, ça c'est trop. Ça, je ne peux pas. » Mais Dieu dit ici que l'épreuve ou la tentation à laquelle tu fais face, elle n'est pas au-delà de tes forces. Si maintenant je dis « bon ben, je vais m'engager pour... courir le 100 mètres à la finale des Jeux Olympiques, ce n'est pas une épreuve qui m'est adaptée. Je ne suis pas préparé pour ça. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de dire « j'ai la promesse de Dieu, je peux le faire, je peux le faire ». Non, il va nous conduire dans des choses qui ne sont pas au-delà de nos forces et de nos capacités. C'est ça qu'il faut voir. Sinon, des fois, on se met nous-mêmes dans des situations un peu compliquées. Le psaume 23, que nous aimons beaucoup, « L'Éternel est mon berger », il nous est dit, il nous conduit dans de verts pâturages. Il nous conduit près des eaux paisibles. Quand on se laisse conduire, on est dans des pâturages, on est près des eaux paisibles, pour avoir une image un peu bucolique, agricole. Mais il nous est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, si je prends une décision d'aller dans une certaine direction... Des fois, c'est moi qui me suis engagé dans cette direction. C'est pas Dieu qui m'a conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il est dit, même dans cette situation, eh bien, il est avec moi. Il est avec moi et ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, même dans ces situations. Mais on a donc des assurances qu'on peut remporter la victoire. Et le 5e point qu'on a vu, c'est que par rapport à cette victoire, puisqu'il est dit « il prépare le moyen d'en sortir », Dieu nous dirige. Donc on a l'assurance de sa direction, l'assurance que Dieu nous guide. Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Donc là, on avait vu qu'il n'est pas dit « n'utilise pas ton cerveau ». Il est dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, que ce soit pas ton appui principal. Et on avait vu que certains disent à tort et à travers « Dieu m'a dit que », alors que ce n'est pas Dieu qui leur a dit, mais que c'est leur imagination ou leur propre désir. D'autres disent « Je n'entends rien », ils ne prennent pas suffisamment attention à écouter la voix de Dieu. Et on avait vu qu'il faut vérifier nos informations aussi pour les directions. Il faut voir d'où sont ces idées que j'ai, d'où sont les pensées, qui m'a donné des informations sur lesquelles je m'appuie maintenant. On avait vu qu'il y avait un moyen moderne d'être guidé, comme le GPS, qui est un guidage par satellite. Nous sommes guidés d'en haut, par quelqu'un qui voit mieux l'ensemble que nous. Et ensuite, le dernier point, c'était, on est guidé par quelqu'un qui a déjà été, quelqu'un qui connaît le chemin. On n'est pas guidé par quelqu'un qui découvre. On dit, c'est toi qui fais le guide, et puis finalement, bah, lui, c'est pas mieux que vous, ça vous est déjà arrivé, non? Des fois, quelqu'un va, c'est lui qui est au volant de la voiture, mais il sait pas non plus où c'est, alors, on va à tâtons. Donc, continuons constamment dans notre vie de chrétien de développer l'assurance. L'assurance. Donc, qu'est-ce que c'est l'assurance? On va voir dans un instant. Aujourd'hui, donc, je vais continuer avec vous dans ce sujet et le titre serait Assurance, tout risque, avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est possible, ça, d'avoir cette assurance, tout risque, qui existe dans le domaine automobile, hein? Donc, c'est une alliance, dans la Bible, on va le voir tout à l'heure, une alliance qui est en tout point bien réglée. Parce que dans le problème des assurances, des fois, quand vous êtes assuré, il y a tellement de clauses dans le contrat d'assurance que souvent les gens ne lisent pas. Et après, il y avait des petites clauses de sauvegarde. Ah oui, mais dans tel cas, alors ça ne s'applique pas. Ou dans telle situation, vous n'êtes pas couvert ou d'autres choses. Il n'y a pas longtemps, donc, on a eu des orages de grêle dans certaines parties de France. Donc, c'était le point aux informations d'avoir un petit mini documentaire sur ce que les assurances prenaient en charge et non. Donc, si vous avez une voiture qui est assurée seulement en responsabilité civile tierce collision, bah, par exemple, la grêle n'est pas prise en charge. Donc, si vous laissez votre voiture et qu'il y a la grêle, bah, ce n'est pas concerné. Et pourtant, votre véhicule est détruit éventuellement et vous ne pouvez plus vous en servir. Donc, est-ce qu'on peut avoir des assurances comme ça de la part de Dieu? On a quand même vu déjà 5 domaines précis dans lesquels on pouvait être assuré. Donc, c'est déjà pas mal, hein? On est loin du « j'espère que, je crois que ». Mais j'aimerais juste définir avec vous encore ce que c'est la foi. La définition de la foi, c'est, ben, beaucoup de gens disent « moi je crois que, mon avis est que, mon opinion ». Mais tout cela n'a que peu de valeur pour comprendre les choses spirituelles. Il faut écouter celui qui est esprit. Dieu est esprit. Il nous parle et c'est ça qui nous communique les pensées spirituelles. Donc, dans sa parole, Hébreux 11, 1, il nous est dit, « Or, la foi, c'est la ferme assurance. » D'accord ? On a de nouveau ce mot, le ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un autre terme pour la foi, c'est la confiance. On peut faire confiance à quelqu'un dans un domaine et pas dans un autre. Vous êtes d'accord avec ça ? Et les gens pensent des fois que, en ce qui concerne la foi par rapport à Dieu, c'est tout à coup différent. La foi, c'est quelque chose de global, de vague. J'ai foi en Dieu, mais je ne lui fais pas confiance pour ce domaine. Mais je ne lui fais pas confiance pour ceci, cela. Et ça ne va pas. Les hommes, souvent, font confiance à leur épouse dans un domaine, pour la cuisine. Mais ils ne veulent pas leur confier le volant. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Ils veulent toujours rouler eux-mêmes, parce qu'ils sont sûrs qu'ils sont des meilleurs chauffeurs que ces dames. Donc c'est juste pour donner un exemple vraiment bidon et classique, mais c'est vrai que souvent c'est le genre de phénomène qui se passe. Mais cette illustration, c'est la même que ce qui peut se passer pour nous. On fait confiance à Dieu dans un domaine, mais dans un autre domaine, on ne lui fait pas confiance. Pourquoi? Posons-nous la question. Des fois on voit dans les films des dialogues où l'un dit à l'autre « tu dois me faire confiance ». Mais on ne peut pas exiger la confiance. La confiance, ça se mérite. Ça se mérite au fur et à mesure qu'on voit quelqu'un parler, voir des actions correspondantes. Alors on a de plus en plus confiance. On peut aussi faire une différence entre préjugé et confiance. Des fois, vous avez un préjugé. Vous voyez quelqu'un, pas forcément négatif. Vous pensez, ah, ça c'est une personne digne de confiance. Parce que vous regardez sur l'extérieur. alors que vous n'en savez rien. Peut-être c'est un escroc, mais qui est très bien habillé, très souriant, très amical. Mais on a un préjugé. Donc notre confiance, elle est basée sur un préjugé et pas sur une expérience. À l'inverse, vous pouvez dire, oh, mais cette personne, je m'en méfie, alors que c'est peut-être une brave personne. Donc avec Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont aussi des préjugés. Ils ont une idée de Dieu par rapport à l'ensemble de leur bagage culturel, tout ce qu'on leur a dit sur Dieu, ce que les uns et les autres, si Dieu était bon, il ferait ceci, cela, et toutes les choses qu'on peut avoir d'habitude comme argument. Le prophète Jérémie aussi, il se posait des questions. Il était dans une situation de souffrance et il se posait des questions et il parle à Dieu. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est dans Jérémie au chapitre 15 et au verset 18. Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? Alors, peut-on avoir confiance en Dieu ou faut-il s'en méfier? Rendez compte, un prophète qui se pose la question. Donc ça veut dire qu'il était assez troublé déjà dans son esprit de dire, mais est-ce qu'on peut avoir confiance en Dieu? Est-ce possible? Rappelez-vous, si vous connaissez votre Bible, dans Jacques 3, il nous est dit, par la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. D'une source, est-ce qu'il peut sortir une eau douce ou une eau amère? Il dit, il ne faut pas que ce soit comme ça. Donc pour nous aussi, on peut des fois avoir des gens dont maintenant on se méfie parce qu'on pensait que c'était une source d'eau douce et c'était une source d'eau amère. Donc quelqu'un qui nous a déçus. Mais est-ce que Dieu peut nous décevoir? Ben lui, non. On peut être déçu de l'image qu'on a de lui, de notre imagination, mais non. Et il répond à Jérémie. Il lui dit, si tu te rattaches à moi, si tu fais cette démarche, si tu changes de mentalité, tu vas retrouver cette confiance et tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Donc dans Proverbe 28, on l'avait vu l'autre fois, on lit que le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Notre version dit autant de confiance qu'un jeune lion. Pour toujours parler de la foi et de la confiance, dans Hébreux 11:6, il nous est dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Celui qui a de l'assurance et qui met sa confiance en lui est agréable à Dieu. » En effet, on aurait du mal à imaginer que quelqu'un dise « La parole de Dieu, j'y crois pas, c'est des mythes, c'est des légendes, on peut l'interpréter de toutes les façons qu'on veut, et en même temps être agréable à Dieu, que Dieu approuve ça. » Non, il dit au contraire, comme Jésus l'a dit d'un homme qui a dit « Une seule parole, et mon serviteur sera guéri. » Il nous a dit dans notre version de la Bible, « Jésus l'admira. » Il a eu de l'admiration pour quelqu'un qui osait croire qu'une seule parole de Jésus peut avoir cette puissance et cet effet. Donc, deux aspects encore que je voudrais partager avec vous. Donc, peut-on être à l'abri? On a vu ce que c'est la foi, donc est-ce qu'il est possible d'être à l'abri? Moi, j'ai souvent entendu cette expression dite par certaines personnes, « personne n'est à l'abri ». En parlant de quelqu'un qui a une maladie ou un accident, on n'est pas à l'abri. Ça veut dire que tout serait laissé alors au hasard, à la chance. Mais ici, nous qui connaissons notre parole de Dieu, on voit qu'il y a des psaumes, le psaume 46, où il nous dit que Dieu est un refuge, un abri. Le psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et donc toutes les promesses de protection, nous savons que c'est possible. On peut être à l'abri. Donc on peut avoir une assurance de plus que vous pouvez rajouter à toutes les autres qu'on a déjà vues ensemble. On peut être à l'abri. Alors des fois les gens se posent des questions par rapport au vécu. Ils disent oui, mais quand les terroristes sont rentrés dans les tours de New York, peut-être il y avait aussi de braves personnes parmi ces gens. C'est pas seulement des méchants qui étaient dans ces tours et qui méritaient de mourir. Mais c'est clair Il y a un certain nombre de chrétiens qui ont été avertis par Dieu ou dirigés pour ne pas se rendre à leur lieu de travail ce jour-là, mais certains sont morts en étant de braves personnes. Mais ce n'est pas parce que certains ont péri que, du coup, ça renverse complètement la parole de Dieu et qu'on ne peut plus y croire. D'ailleurs, le Seigneur Jésus en a parlé d'une façon très précise. Dans Luc 13, il nous dit, justement, concernant une tour, au verset 4, il dit « Ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de même. » De nouveau, si vous ne changez pas de mentalité, si vous ne changez pas votre façon de voir, c'est-à-dire de la repentance. Donc Jésus dit, il y a certaines choses qui arrivent dans le domaine naturel et on se pose des questions, on est perplexe. Et les gens avaient facilement ce raisonnement de s'il leur est arrivé ceci, c'est qu'ils l'avaient mérité. Ils étaient méchants, ils avaient péché, donc la colère de Dieu vient sur eux et c'est bien fait. Enfin, bien fait, je le rajoute comme ça pour dire, ça peut être l'attitude de quelques-uns. Mais nous sommes en train de voir justement qu'il y a une possibilité d'être à l'abri. Dans Matthieu, il nous est dit que Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Dans ce contexte, pleuvoir, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Par contre, il y a d'autres situations où la Bible nous dit qu'il y a la colère à venir qui doit se manifester. Quand les gens pensent à l'Apocalypse, ils pensent à quoi ? Ils pensent aux catastrophes. Ils ne pensent pas d'abord à la vraie nature de l'Apocalypse qui veut dire révélation. Révélation de choses surnaturelles et futures. Mais donc ils pensent catastrophe et c'est une partie de la colère à venir. Mais Romains 5, 6 nous explique... En effet, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Donc vous voyez, il y a deux choses différentes. On est sauvé, on a dit nous avons la vie éternelle, cette vie est dans son Fils, nous savons que nous sommes enfants de Dieu, on a cette assurance, et maintenant il y a quelque chose de plus, il nous dit que nous pouvons être sauvés par lui de la colère de Dieu. Qu'est-ce que c'est la colère de Dieu ? Ce n'est pas un vieillard barbu au sommet de l'Olympe qui jette des éclairs parce qu'il est fâché. Ça c'est la caricature de ce que les gens peuvent penser. Mais la colère de Dieu, c'est tout simplement l'absence de la bonté de Dieu. Quand la bonté de Dieu se retire, qu'est-ce qui reste ? Il reste la manifestation de la colère. La colère, ça veut dire, on peut dire aussi d'une certaine façon, le diable en fait à sa guise maintenant. De la même façon que les ténèbres ne peuvent pas être définies en tant que telles. Les ténèbres sont absence de lumière. Si je suis dans cette pièce et qu'il fait noir, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je peux quantifier le noir ? Est-ce que je peux dire, voilà, j'ai mis tant de volume de ténèbres dans cette pièce et c'est pour ça qu'elle est sombre ? Non, c'est pas ça. C'est quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Mais quand la lumière est éteinte, les ténèbres sont là. De la même façon, la colère à venir, c'est la grâce de Dieu qui se retire. Et il ne reste plus que la colère qui se manifeste avec tous les dérèglements, avec toutes les catastrophes, avec toute la méchanceté qui se manifeste. Et la terre, puisque nous sommes dessus, elle est elle-même secouée aussi par la colère. Et donc c'est une étude qui demanderait un peu plus de temps, mais c'était juste pour dire que nous ne sommes pas destinés à ça. Et c'est écrit clairement ici. Nous sommes donc sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Donc une assurance, tout risque. Est-ce que c'est possible ? En tout cas, David qui n'était pas seulement d'abord berger, puis guerrier, puis roi, il a aussi été prophète de Dieu. Il y a eu des moments où l'Esprit de Dieu est venu sur lui et il a parlé de la part de Dieu, il a prophétisé. Dans 2 Samuel 23, au verset 2, voilà ce que dit David. « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglé et bien gardé. » Écoutez bien, il en va de même, voilà ce que David dit, pour ma famille devant Dieu. Dieu a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglé et bien gardé. Et donc dans cette version, il est dit, n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Donc il est dit, dans cette alliance bien réglée, il fait pousser tout mon salut et tous mes désirs. Donc, quand je disais que c'était tout risque, c'est même plus que ça. C'est pas seulement face au risque, mais en plus ça inclut, vous avez entendu, des désirs. Et ce que nous désirons est inclus dedans dans l'alliance aussi. Alors une fois que nous avons cette assurance, oui, Dieu a une alliance avec moi, une alliance éternelle, tout est dedans. Pas seulement les choses essentielles pour la vie spirituelle, je veux dire le minimum, pas aller en enfer et être au ciel pour l'éternité, mais plus que ça, tout est inclus. Et donc, dernier point que je voudrais partager avec vous, bien qu'on a déjà vu pas mal de choses à ce sujet, c'est qu'à un moment donné, il nous faut l'exprimer. Alors, dans 1 Samuel 17, 29, quand David parle devant ses frères, ils sont en train de discuter sur Goliath, ce géant qui se présente devant l'armée, qui défie l'armée d'Israël, et David pose des questions, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour celui qui osera affronter Goliath et tout? Et donc son frère aîné veut le faire taire. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais le curieux, tu veux voir ce qui se passe, occupe-toi plutôt de garder tes moutons. Et David, à ce moment-là, il n'est plus le petit berger, le petit frère qui doit se taire, mais il est devenu l'homme que Dieu a choisi pour sauver Israël. Et il parle maintenant comme un héros avec assurance. Et il dit donc dans ce verset 1 Samuel 17, 29, il répond, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? » Vous avez le droit de vous exprimer. Hein? On est dans un monde où à la fois on veut faire parler les gens, mais des fois quand on a envie de parler, tais-toi, on ne veut pas t'entendre là-dessus. Mais ici, c'est aussi ça la liberté. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, vous avez le droit de vous exprimer. Exprimez votre foi, dites-le. Dites-le qu'il n'y a pas un même sort devant tous. S'ils avaient été fatalistes, ils auraient dit, bon, c'est terminé, on va être les esclaves des Philistins, jamais personne ne peut affronter Goliath, c'est même pas la peine d'essayer, aucune chance contre lui. Mais quelqu'un a osé, quelqu'un l'a fait, quelqu'un a pensé qu'à cause de son alliance avec Dieu, ça c'était inclus aussi, la victoire contre un géant, quelque chose qui semble impossible. Donc c'est pour ça, il faut changer d'attitude, il faut changer de mentalité. Ce que tu crois que tu peux pas faire, tu peux le faire. Donc, bien sûr, il y a une différence entre la foi, la présomption, la folie. On l'a vu avec cette illustration de la cité de Sardes. On pense qu'on est costaud, inébranlable, mais il faut voir. Est-ce qu'il y a dans les fondements des choses à revoir? Est-ce qu'il y a des failles qui se sont créées avec le temps? Et ça, la Bible nous le dit aussi. Dans 2 Corinthiens 13, 5, il nous est dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Donc regardez de temps en temps si vous êtes dans la foi. Je ne parle pas de la foi globale, je parle de la foi précise. Je dis alors comment ça va dans tel domaine de ta vie? Si tu me dis, Oui, ça va avec le Seigneur, ça ne m'intéresse pas ce genre de réponse. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit d'aller dans cette direction? Est-ce qu'il t'a donné des promesses? Est-ce que ces promesses, tu les as reçues? Est-ce que tu as plein d'assurance pour ces promesses? Tout ça, quand on a des hésitations, il faut réfléchir longtemps. Si on a une promesse, c'est qu'on n'en a sans doute pas. Alors il faut de nouveau chercher, examiner si vous êtes dans la foi. Et si vous ne l'êtes pas, alors replongez-vous dans vos bases. Les bases, c'est Marc 11, 22. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Donc quand il est dit, si vous ne doutez pas, ce que vous dites va arriver, si vous le croyez, alors vous le verrez s'accomplir. Donc dites ce que vous voulez. Parlez beaucoup plus de ce que vous voulez que ce qui vous arrive. Parlez beaucoup plus de ce que vous désirez, ce que vous attendez. C'est ça qui doit tout le temps. Je crois que même des gens qui n'avaient pas la foi en Jésus, foi biblique, quand ils ont appliqué ce principe à la vie, ils sont allés énormément au-delà de ce que d'autres ont fait. Il y a des gens qui ont parlé de leurs rêves, un rêve d'un business, d'accomplir quelque chose, un exploit sportif ou faire quelque chose d'extraordinaire. Il y en a qui ne parlent jamais et qui n'accomplissent que peu de choses. Et d'autres, ils en parlent tout le temps. Quand quelqu'un est passionné par quelque chose, il en parle tout le temps. Et même si ça ne vous intéresse pas, il va quand même vous en parler. Parce que c'est ce qui l'intéresse lui, et c'est ce qui le passionne. Donc, proclamons ça encore. J'ai la foi en Dieu.
J'ai la foi en Dieu.
J'ai la foi de Dieu.
J'ai la foi de Dieu.
Et je dis à cette montagne,
retire-toi de là,
et jette-toi dans la mer. Je ne doute pas dans mon cœur,
et
je crois que ce que je dis arrive. Et je le verrai s'accomplir. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.